Et donc, Tony vient nous parler de Wonder Woman, et plus particulièrement du run de Messner Loeb.
Voilà, un run de Bill Messner Loeb, ce qui est probablement un des plus méconnus et sous-estimés. En fait, ce run est célèbre pour sa dernière année, et c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, puisque il était déjà sur le titre depuis 2 ans, et à l'époque, la personnalité du dessinateur, un certain Mike Deodato Jr., était telle qu'on avait un peu oublié que le type dessinait le titre depuis 2 ans. Et pourquoi l'a-t-on oublié ? Eh ben, il y a quand même quelques raisons qui peuvent amener à le comprendre. Déjà, le contexte dans lequel il reprend, et surtout la direction que DC semble vouloir donner à la série. Avec Perez, la série était quand même relativement contemplative. Le dessin de Jill Thompson aidait, c'était des histoires très calmes, des histoires de filles. Et visiblement, le public féminin n'accrochait pas vraiment. Bon, on va pas se mentir, hein, le public gay a toujours été plus présent que le public féminin sur Wonder Woman. C'est pas moi qui vais dire le contraire. On va pas chercher à s'étendre sur le sujet. Le fait est là. Et du coup, on veut faire un truc bourrin. Et on veut revenir à une vraie super-héroïne qui tape et pas à une fille qui se lamente sur le suicide d'une adolescente comme on a vu dans les mois qui précédaient. Première décision déjà, relancer le titre, alors au 63, mais avant avec un spécial. À noter quand même, février, sortie du dernier numéro de Perez, le relaunch date de mai. Donc 3 mois sans sortie. Une explication quand même, c'est qu'on sait qu'à l'époque, si DC restait 6 mois sans publier de Wonder Woman, il perdait les droits. Oui, et qu'il revenait à la famille du créateur. Perdre les droits sur un personnage qu'on exploite depuis plus de 50 ans, ça aurait fait mal là où je pense.
Oui, ça aurait été très gênant.
Bon. Ils ont quand même réussi à arrêter la série au moment du 50e anniversaire. Ce qui était quand même déjà un exploit.
C'est comment dire, audacieux.
Non, c'est pas audacieux, c'est juste que Perez était furax sur la manière dont ça s'est passé, qui donc il est parti à ce moment-là, parce qu'il n'était pas d'accord avec la manière dont DC avait traité les. Du coup, 3 mois plus tard, on le remplace. Et là, on dit, on va faire un truc, hein, on va arrêter avec ces histoires pour Midinet. On va revenir à quelque chose de plus péchu. Et comment faire péchu chez DC en mettant Deathstroke en co-personnage?
On en parlait tout à l'heure.
Donc Deathstroke arrive dès ce numéro 62, donc pour un crossover en 2 parties. Et ils veulent faire plus péchu et ils veulent aussi un peu effacer ce qu'est Wonder Woman. Ils vont notamment commencer à essayer de se dire on va peut-être essayer de se débarrasser de ce costume. Et le costume, visiblement, les gêne. Et d'ailleurs, dès le premier arc en 2 parties, Wonder Woman va changer de tenue à plusieurs reprises. D'abord, Deathstroke va lui expliquer que pour passer incognito dans la neige, il faut qu'elle enfile un costume blanc, tout blanc, qui va un peu rappeler ce qu'on avait eu sur les épisodes mythiques des années 70 où elle avait plus le pouvoir, où elle était habillée tout en blanc, qui est une tenue qui a été reprise notamment dans les 6 épisodes qui est écrit par Walt Simonson et dessiné par Garci Lopez, et également dans le dernier relaunch, l'avant-dernier, celui qui avait été fait par Lana Heinberg, où quand elle était Diana Prince, elle avait un uniforme blanc alors que tout le monde avait un uniforme noir dans son truc militaire auquel elle appartenait. Donc bon, ça c'est déjà, on dit il y a une référence, pourquoi pas. Après, voilà, Wonder Woman et Deathstroke qui combattent des monstres tout vilains. On se dit un peu qu'on est sorti du concept. Un peu plus tard, évidemment, elle va se battre en robe de soirée. Mais bon, rassurez-vous, à un moment, la robe de soirée se déchire. Et évidemment, elle a toujours son costume en dessous. C'est ce qui est très pratique d'avoir un bustier et une culotte à étoiles. Bon, les culottes à étoiles, ça va pas avec tout, mais elle avait une jupe longue, donc ça se voyait pas. Donc, arc étonnant, où Jill Thompson ne semble pas forcément à sa place. Des gros monstres tentaculaires comme ça, c'est pas forcément...
Ouais, c'est pas...
C'est pas ce qu'il lui faut, Jill Thompson.
Non, on dirait du Cthulhu...
Mal digéré.
Ouais, c'est pas bien.
C'est pas bien, c'est pas qu'il y a quelque chose qui correspond à son style. Et d'ailleurs, ça va sûrement participer à son départ, puisque... Elle a fait donc ce numéro, le 64 également, qu'elle dessine. Et à partir du 65, on a un dessinateur invité. On va y revenir dans un instant. Donc, petite histoire, cette fois-ci, sans gros monstre, mais toujours sans savoir ce qu'on veut faire de Wonder Woman. Les couvertures sont de Bolland, elles sont toujours jolies. Mais on sent bien qu'elle n'est plus à sa place. Alors, est-ce qu'elle part? est-ce qu'elle est virée? Ça, Dieu seul le sait. Ce qui est sûr, c'est qu'au numéro 65, on nous annonce un Gas Penciler, qui est Paris Collins, et qui va rester quand même jusqu'au 71.
Oui, il est très souvent invité, on va dire.
Il est Gas Penciler sur un épisode, et il fait tout l'arc qui suit. Et là, évidemment, on sent bien que la volonté est quand même à faire un truc moins friendly. Paris Collins nous dessine une Wonder Woman qui ressemble plus à Big Barda.
Oui, c'est très musculeux, mais c'est tout en rondeur, mais c'est ça passe pas. Il y a des hanches très très larges, des torses tout menus, c'est bizarre.
Il y a un peu un côté, j'essaye de faire du Liefeld par moment. Elle ressemblerait à une bodybuildeuse qui a de la poitrine.
Ouais, il y a un peu de ça, ouais. C'est pas non plus une réussite.
Là aussi, évidemment, on nous sort les grosses pointures, question vilain. On va d'emblée combattre en même temps Docteur Psycho et Cheetah.
Oui, bon.
Bon, on fait les fonds de tiroir, on reste sur les personnages. Mais c'est clair, DC ne veut plus de Wonder Woman avec sa culotte étoilée, veut faire quelque chose de vraiment différente. Et donc l'arc 66 à 71 est un ovni. Un ovni complet. Une erreur de casting. Wonder Woman devient spationaute. Et évidemment, évidemment, quand c'est dessiné par Brian Bolland, on dit pourquoi pas. Paris Collins, comme je le disais, c'est un peu, on croirait une imitation de Hap Trimp qui imite Robbie Feld. Ouais, c'est absolument pas atroce. Pour ceux qui ont eu la douloureuse expérience de lire les Fantastic Four Unlimited, ça ressemblait à peu près à ça.
Ouais, c'est pas folichon.
C'est une catastrophe. Donc évidemment, Wonder Woman part dans l'espace.
Yay!
Avec une spationaute qui va l'accompagner dans toute cette histoire. La mission se passe mal.
Non.
Si. Donc la navette ne revient pas.
Oh.
Et donc, Wonder Woman se retrouve esclave sur une planète extraterrestre.
Et ils ont essayé de refaire John Carter version féminine ou...
Ouais, enfin, tu dis, non mais qu'est-ce qu'on nous fait? Donc évidemment...
C'est une esclave, donc elle est à moitié à poil.
Bah oui, enfin tu vois bien la tenue, enfin c'est...
Ah oui, mais j'aurais espéré plus déchiré que ça quand même, enfin...
Ben, par Bolland, oui, par Paris Collins, pas forcément. Et donc, voilà, Wonder Woman est esclave sur cette planète. C'est bien triste, la vie. Ça fait une belle couverture de Bolland, ça fait un épisode étonnant. Bon, évidemment, elle se rebelle.
Elle contre des monstres de l'espace.
Déjà, quand on voit les couvertures de Bolland, on se rend compte à quel point on est dans le stéréotype à chaque épisode.
Bah, ça fait un peu, oui, c'est ça, c'est couverture des années 50, mais réimaginée aujourd'hui, un peu. Avec ce gros monstre à tentacules, là, cette espèce de bouche. Et puis ça fait un peu Star Wars en même temps, parce que ça fait le monstre dans le retour du Jedi là, qui bouffe, je sais plus,
et
Boba Fett.
Ouais. Le problème en plus, c'est que le talent de Bolton fait que le dessin de Paris Collins paraît encore plus laid.
Ouais, et ça, c'est le risque d'avoir un excellent cover artist. Quand on a un dessinateur médiocre, ça ne fait qu'accentuer la faiblesse du dessinateur d'intérieur, malheureusement.
Voilà, donc en 3 épisodes, elle vient déjà de nous changer 2 fois de costume. Hein, elle est passée de la tenue de spationaute...
Mais c'est une femme, elle fait les soldes.
Ouais, bien sûr, dans l'espace. Après les haillons déchirés, elle prend évidemment la tête d'un bataillon de résistance.
Ouais.
Et
bah,
elle devient pirate de l'espace.
Alors, moi je dis pirate de l'espace, moi je dis tout de suite, oui d'accord, avec Wonder Woman, je dis, pas forcément.
Voilà, donc avec un nouveau costume, cette fois-ci, bah, évidemment elle est dans l'espace, elle ne retrouve plus de culotte étoilée, qui passe à la limite mieux que ce qu'on a pu voir au préalable.
Ouais, il fait 13 années 90.
À la limite, pourquoi pas, moi je dis...
Il est plutôt sobre.
Il est plutôt sobre, ça fonctionne plutôt bien, et sur le coup, Paris Collins ne le rate pas forcément. Donc c'est déjà un point positif. Juste, on m'expliquera comment elle trouve un drap jaune à se nouer autour du cou qui a déjà une étoile rouge. Mais bon, ça, évidemment, elle l'a peut-être brodé de ses mains entre deux.
Bah, c'est une femme, elle fait de la couture.
Super comme explication.
Oh, mais j'essaye de t'aider.
Ouais, je vois. Donc évidemment, cet arc amène à la période suivante. Alors, amène, oui et non. Parce que déjà, visiblement, ça a plombé tellement les ventes que la période suivante est totalement introuvable. Elle est dessinée par Lee Moder, dessinateur plutôt très bon.
Oui, enfin, plus qu'honnête.
qui va nous faire une version très super-héroïque avec de la guest star régulièrement. Là-dessus, je trouve l'idée plutôt bonne. On a des guest stars de Flash, de la...
Enfin, Limoder, à l'époque, ça ressemblait à quoi? Parce que j'ai une bonne idée de ce qu'il fait maintenant, mais à l'époque, ça devait être... c'est très très...
C'est très très bon.
Ah, oui, c'est très bon.
Quand il va quitter Wonder Woman, il va notamment faire la Legend of Super Heroes dans le relaunch qui suit. Non, c'est un dessinateur qui déjà qui n'a pas perdu.
C'est bien.
Il était déjà à un niveau proche de ce qu'il fait actuellement à l'époque, parfois avec des expressions un peu moins rondes. Il y a même des planches où à la limite je trouve ça presque plus joli que ce qu'il fait maintenant sur certains aspects. Où...
Mais il y a une souplesse qu'il a pu maintenant. J'ai l'impression maintenant il est plus dans du trait, dans de l'angle, dans du trait cassé. Là c'est plus souple.
Ouais, et puis à la fois il y a des expressions qui sont presque Gaijin Studio par moment.
Qui font la dernière case que tu me montrais me fait un peu penser presque à du Maguire, quoi.
Ouais, tout à fait. Donc, période très jolie, introuvable, jamais rééditée. À noter, entre autres, à cette époque-là, quand même, un annual qui est dessiné par John Dennis et David Johnson, enfin, que des gens qu'on ne connaît pas, dans un style très proche de ce que pouvait nous faire justement Paris Collins, en un peu moins réussi, et qui introduit un personnage qui va être le sorcier blanc, qui va être la tentative de Messner-Lobs à recréer un némésis à Wonder Woman. On n'a pas à éviter les clichés, hein. C'est évidemment, il est là depuis la naissance des États-Unis, c'est un des ancêtres de Thomas Jefferson, il a eu des pseudos de tout style dans toutes les époques. Voilà, mais il fait l'annual 3, on le revoit après à 3 ou 4 reprises dans la série. Il devient vraiment le vilain récurrent au même titre que Cheetah.
Mais il est... Enfin, je veux dire, à part ses clichés, il est plutôt bon ou pas?
C'est un magicien surpuissant. Vraiment, enfin... Au niveau personnalité, on peut pas dire que ce soit un personnage qui va marquer. D'ailleurs, la preuve en est que personne n'a essayé de nous le ramener depuis la fin de ce run. Bon, il est un peu mort à la fin, mais rien n'empêche de ressusciter ce genre de personnage.
Un magicien.
Voilà, magicien qui est là depuis si longtemps. Il a déjà dû mourir deux ou trois fois.
Oui, et puis... Si on prend l'explication Marvel, c'est magique, on n'a pas à l'expliquer.
En gros, Limoder va être là du 72 au 83, avec quelques fill-in intermittents. Et puis, à partir du 84, on ne va pas savoir quoi en faire. Il n'y a pas de dessinateur régulier qui arrive. Les arcs se succèdent sans histoire, sans intérêt, avec des vilains à petite semaine qu'on crée pour l'occasion. Juste... petite anecdote, l'apparition d'un dessinateur qu'on n'avait pas encore vu, un certain Mike Deodato qui fait le 85, et qui doit marquer suffisamment pour qu'on lui confie la série à partir du 90. Et là, le monde des comics découvre Wonder Woman. On avait oublié que le titre existait depuis le 24 et le départ de Perez du dessin. Mmh. Et là, tout d'un coup, la sensation, Mike Deodato, fils de dessinateur, Mike Deodato senior qu'on n'a jamais connu en France...
Effectivement.
Mais, et aux États-Unis pratiquement pas d'ailleurs.
Il était spécialisé dans les comics de guerre, il me semble.
Oui, quelque chose comme ça. C'est un dessinateur argentin.
Oui. Et... Alors, Amérique du Sud, oui.
Je crois que c'est Argentine. Et du coup, son fils et son studio, parce qu'il faut bien le dire, il y a le studio qui travaille derrière, vont amener un vent de fraîcheur à l'époque. Alors, avec un style qui aujourd'hui paraît assez maladroit, il a fait des choses beaucoup plus élaborées par la suite, mais il y a une certaine fraîcheur qui manquait quand même cruellement au titre depuis des mois.
Oui, et puis, non, mais enfin, pour du style années 90, c'est vachement maîtrisé, je trouve.
Ouais, c'est. Puis bon, c'est quand même son premier boulot professionnel de longue durée. Et on va amener à une histoire donc, qui intègre le numéro 0 en deuxième épisode. Donc, Zero Hour va redéfinir en partie les origines du personnage. Alors, Deodato qui en plus s'ancre lui-même, hein, sur ces épisodes, ce qui quand même est assez rare à l'époque.
Mais c'est en plus, je crois que c'était pas encore Deodato Studio au début.
Ah non, c'est Mike Deodato Junior.
Ouais.
Sur tout son run du 90 au 100, il fait officiellement l'ancrage lui-même.
Ouais, c'est oui, belle perf.
Et il y a pas de fill-in. Donc il arrive à nous signer donc du 90 au 100 avec un zéro dedans. Ça nous fait 11 épisodes dont un double.
Oui, donc 12. Une année.
Quand même, résultat assez honorable. Alors, ça existe donc dans deux TPB qui s'appellent The Contest et The Challenge of Artemis. En gros, dans le dernier arc avant l'arrivée de Deodato, Circe a attaqué les Amazones, machin truc. Wonder Woman revient. Et là, elle apprend qu'elle était partie depuis plusieurs années. Alors que pour elle, ça faisait une semaine.
Ah, les sauts dans le temps.
Themyscira était en partie détruit. Et surtout, on retrouve un deuxième peloton d'Amazon Renegade qui se sont réinstallés sur l'île. Ces Amazones, en fait, avaient suivi à l'époque la sœur d'Hippolyte sur Terre, enfin sur le monde des hommes, et étaient devenues un peu les Amazones du mythe, celles qu'on connaissait dans la mythologie terrienne, en beaucoup plus méchantes donc et beaucoup plus guerrières.
Elle est vraiment très très méchante.
Et du coup, on va se retrouver dans une histoire où, eh bien, il faut cohabiter avec ces Amazones, et surtout en signe d'apaisement, on va apprendre que le manteau de Wonder Woman va être remis en challenge. Alors Perez nous avait expliqué dans le numéro 1 comment s'était passé le challenge. Là, à l'occasion du numéro 0, on nous raconte un peu l'histoire d'origine en la réaménageant un peu et aussi en écornant l'image d'Hippolyte, puisque on découvre en fait qu'Hippolyte avait un peu couché avec Hercule, qu'elle était un peu amoureuse, qu'elle a un peu trahi, et que c'est un peu pour ça que sa sœur est partie avec les copines. L'image du personnage en prend un peu pour son grade. Et donc, un nouveau challenge. Wonder Woman va participer à ce challenge et va perdre par rapport à une des favorites de l'autre camp qui s'appelle Artemis et qui va donc être la nouvelle Wonder Woman. Artemis gagne ce challenge. Et évidemment, Wonder Woman va devoir gagner son rôle de super-héroïne parce qu'elle n'est plus Wonder Woman. Et il faut donc qu'elle arrive à avoir un rôle de super-héroïne sans être Wonder Woman. Wonder Woman sans costume, ça va donner quoi? Ben, une Wonder Woman avec un look très années 90, là aussi. Un petit soutien-gorge avec des bretelles en cuir, un panty et un blouson sans manches. Look très daté aujourd'hui, mais qui fonctionne bien à l'époque et qui va permettre de libérer le personnage. En plus, elle a un nouveau métier, elle est devenue détective privée avec un de ses amis, et elle va mener des enquêtes un peu policières pendant qu'Artemis essaye de se faire accepter comme Wonder Woman. Et ça, c'est pas gagné, parce qu'Artemis, elle a beau être bien foutue et bien porter le costume, elle n'est juste pas Diana, elle n'est pas la copine de la Justice League, et elle n'arrive pas à se faire accepter dans la Justice League. D'ailleurs, celle qu'on voit dans la Justice League, celle qui vraiment fait partie de l'équipe, c'est Princesse Diana, puisque maintenant on l'appelle Princesse Diana, avec son costume noir, et pas Artemis. Donc évidemment, Artemis essaye d'être Wonder Woman, même si tout le monde lui préfère Lex. Elle va vivre des aventures, Diana a envie de son côté, et du coup, les deux héroïnes vont vivre en parallèle la série, jusqu'à un moment un peu plus délicat où ben, Diana elle va commencer à tirer un peu les vers du nez de sa mère et va comprendre pourquoi il y a eu un nouveau challenge. Parce que Hippolyte savait que d'après la prophétie, Wonder Woman devait mourir. Et tant qu'à ce que Wonder Woman meure, elle préférait que ce soit pas sa fille.
Oui, ça, ouais, ouais, effectivement.
Diana trouve ça pas très classe d'avoir envoyé l'autre au casse-pipe. D'ailleurs, elle doit mourir de la main du magicien blanc. Que ce magicien blanc, du coup, se rend compte quand Diana intervient qu'il va un peu avoir du mal et donc vend son âme au diable pour se transformer en démon et va gagner.
Ouais, ouais, enfin,
il va abattre Artemis avant que Wonder Woman le tue. Et donc Diana redevient la nouvelle Wonder Woman. L'histoire aurait pu s'arrêter là, on en est au sang. Derrière, la série arrive dans l'escarcelle d'un certain John Byrne. Mais Messner Labs n'en a pas fini avec Wonder Woman et surtout il n'en a pas fini avec Artemis. Donc évidemment, cette période est à lire. Du coup, c'est Bolland qui fait triste mine à côté de Deodato parce que ses couvertures, du coup, donnent l'impression de ne plus ressembler à grand-chose.
Les deux styles sont plus du tout raccord.
Ils n'étaient pas avant, mais avant, c'était à l'avantage de Bolland.
Voilà, et là, c'est quand on met une série d'action avec Deodato, ça carbure un petit peu. Et c'est vrai que celles de Bolland sont un peu moins...
Après, il y en a quelques-unes qui fonctionnent et qui restent célèbres.
Ah, celle-là est super bien, oui.
Voilà, le Wonder Woman avec le sourire du Joker, puisqu'elle affronte aussi le Joker dans cet arc. Donc, il y en a qui fonctionnent très bien, mais on n'est plus dans la Wonder Woman qu'on connaissait.
Bon. Après, ça reste un maître de compo et de dessin, donc il arrive quand même à s'en tirer, faut être... Mais c'est vrai que la comparaison est, j'irais pas pince à faveur, mais on sent qu'il colle. Avant, ça donnait envie d'acheter le numéro, et là on sent que c'est plus le mec qui va faire transparaître l'ambiance du comics.
Tout à fait. Donc Deodato lui passe chez Marvel, et une mini-série écrite par Warner Labs sur Artemis, qui était morte à la fin, mais qui va être ramenée.
Back from the dead.
Voilà. En fait, Wonder Woman va invoquer des démons, va aller au royaume d'Hadès pour chercher Artemis, qui est un peu furax parce que finalement, elle avait épousé Hadès. C'était un peu confort d'être maîtresse des enfers. Du coup, comme Hadès est fâchée, elle est obligée de partir en sauvant la vie à Wonder Woman. Et donc, dans cette mini-série, eh bien, elle va prendre le nom de code de Requiem et va travailler pour un groupuscule qui combat les démons au jour le jour avec une équipe. Voilà, c'est plutôt marrant, c'est plutôt bien dessiné. Le dessinateur est un des bras droits de Odato qui le copie en parfois même mieux. Moi, il y a des fois où je trouve que le dessin fonctionne mieux, il est plus lisse, l'ancrage est plus travaillé.
Oui.
Ce petit dessinateur dont on suivra la carrière des années plus tard s'appelle Ed Benesch.
Voilà.
Qui initie son premier travail professionnel sous son nom.
Puisqu'il a avant beaucoup travaillé sur le studio.
Voilà.
Parce que maintenant, il fait quoi, Benesch, d'ailleurs ? Ah, Red Lantern !
On va rester là sur ce run donc, de Wonder Woman. Si vous avez l'occasion, quand même, Artemis Requiem et le début du run introuvable, ou en se levant très tôt. Par contre, si vous avez l'occasion de lire le Challenge of Artemis, c'est-à-dire le personnage a quand même eu des conséquences par la suite, puisqu'il est encore présent aujourd'hui régulièrement dans les séries.
C'est ce que j'allais demander.
Voilà. Bah oui, parce que Artemis, notamment, a été réutilisé par John Byrne par la suite dans tout son run.
D'accord.
Donc, autant le magicien blanc n'a pas un apport qui a duré, autant Artemis et les Amazones qui sont apparues à l'époque sont devenus des membres à part entière de Themyscira et donc vont continuer à exister par la suite.
Donc c'est un run quand même qui a son importance dans l'histoire de Wonder Woman.
Tout à fait. Les deux derniers arcs ont leur importance et c'est pour ça que le fait de les passer en France n'aurait pas été incohérent et aurait été de meilleure facture que, évidemment, nous passer les Odyssées de Straczynski. Mais ça, je vous tease depuis la semaine dernière, on y viendra un jour ou l'autre.
Ah, mais Straczynski, je ne dis pas qu'il fait rêver, mais il fait vendre au moins. Donc, Messner Loeb, Deodato par contre.
Deodato, il a eu une période traversée du désert. Aujourd'hui, il est quand même bien revenu.
Ah, puis un style un peu, tend vers du Neil Adams presque maintenant.
Ouais, non, c'est
avec
vrai.
Avec beaucoup de contraste ombre-lumière.
Ouais, c'est là-dessus, il est devenu très très doué. Il s'est un peu grillé les ailes à l'époque avec son Deodato Studio.
À trop vouloir en faire
et à trop sous-traiter. Le nom Deodato avait été galvaudé. Aujourd'hui, ouais. Il ne signe plus aucun sous le nom Deodato Studio.
Oui, tout
et
est.
Et ils ont trouvé leur propre personnalité.
Et je sais pas s'il y a encore un studio, s'il y a quelqu'un qui l'aide à ancrer ou quoi. Mais en tout cas, il bosse bien. Bah, il fait New Adventures en ce moment, il me semble.
Oui, bon, il avait fait les Dark Avengers avant.
Voilà. C'est vrai que je suis assez étonné. Je dis pas que c'est ma tasse de thé, mais c'est franchement pas mauvais. Après, il fait ce qu'il fait, il le fait bien.
Et ça, c'est déjà beaucoup.
Voilà, c'est déjà beaucoup plus que pas mal de dessinateurs aujourd'hui.